Chapitre 16. L'heure sonne. Méphistophélès. Les aiguilles touchent l'heure. Voici qu'elle tombe. Elle est tombée. Goethe, Faust. À quoi bon ? Dit le Révald en se levant. Non, je ne veux point voir cette suprême lueur de la vision promise, sans la vision même. On ne saurait isoler aucun élément d'une telle œuvre. Et je ne désire plus m'exposer à ce rire d'une conception dont l'ensemble et la résultante, enfin, me demeurent encore voilées. Tout ceci est à la fois trop extraordinaire et trop simple pour que je refuse de me prêter, dans la mesure du possible, à l'aventure inconnue qui, m'assurez-vous, doit s'en dégager. Puisque vous vous êtes montré assez sûr de votre Andréï de futur, pour avoir osé braver jusqu'au rire que devaient nécessairement entraîner des explications aussi détaillées, aussi hostiles à toute illusion, il convient que je me tienne pour satisfait et que j'attende le terme fixé avant de statuer sur votre ouvrage. Cependant, dès aujourd'hui, je vous atteste que la tentative en question ne me paraît plus aussi absurde qu'au premier moment. C'est tout ce que je puis et dois vous dire. L'ingénieur, d'une voix tranquille, répondit. Je ne devais pas moins attendre de la haute nature d'intelligence dont vous avez fait preuve ce soir, milord. Certes, je pourrais surprendre quelque peu, j'imagine, ceux des esprits modernes dont l'inadvertance s'adviserait de nier mon œuvre avant de l'avoir vue et de m'inculper de cynisme avant de m'avoir compris. Oui, ne pourrais-je en effet leur tenir ce petit discours, bien difficile à réfuter, je crois. Vous prétendez qu'il est impossible de préférer à une vivante l'Andréide de cette vivante, que l'on ne saurait rien sacrifier de soi-même, ni de ses croyances, ni de ses humaines amours, pour une chose inanimée, que l'on ne confondra rien d'une âme avec la fumée qui sort d'une pile. Mais ce sont là des paroles que vous avez perdu le droit de proférer, car, pour la fumée qui sort d'une chaudière, vous avez renié toutes les croyances que tant de millions de héros, de penseurs et de martyrs vous avez léguées depuis plus de 6000 années, vous qui ne datez que d'un sempiternel demain dont le soleil pourrait fort bien ne se lever jamais. À quoi donc avez-vous préféré, depuis hier à peine, les prétendus principes immuables de vos devanciers sur la planète, roi, dieu, famille, patrie, à ce peu de fumée qu'ils emportent en sifflant et les dissipent au gré du vent sur tous les sillons de la terre, entre toutes les vagues de la mer, en 25 années, 500 000 baleines de locomotives ont suffi pour plonger vos âmes éclairées dans le doute le plus profond de tout ce qui fut la foi de plus de 6000 ans d'humanité. Souffrez que je me défie quelque peu des subites et prétendues clairvoyances d'un être collectif dont l'erreur aurait si longtemps duré. S'il a suffi, d'ores et déjà, de la fumée initialement sortie de la fameuse marmite de Papin, pour obscurcir et troubler en vos consciences l'amour, l'idée même d'un dieu, pour détruire tant d'immortels, de sublimes, de natales espérances, tant d'antiques, foncières et légitimes espérances, à quel titre prendrais-je au sérieux vos dénégations inconséquentes et vos entendus sourires de renégat, vos clameurs de morale, démentis chaque jour par votre vie? Je viens vous dire, puisque nos dieux et nos espoirs ne sont que scientifiques, pourquoi nos amours ne le deviendraient-ils pas également? À la place de l'Ève, de la légende oubliée, de la légende méprisée par la science, je vous offre une Ève scientifique. Seul digne se semble de ces viscères flétris que, par un reste de sentimentalisme dont vous êtes les premiers à sourire, vous appelez encore vos cœurs. Loin de supprimer l'amour envers ses épouses, si nécessaire, jusqu'à le nouvel ordre du moins, à la perpétuité de notre race, je propose au contraire d'en assurer, raffermir et garantir la durée, l'intégrité, les intérêts matériels, à l'aide innocente de 1000 et 1000 merveilleux simulacres, où les belles maîtresses décevantes, mais désormais inoffensives, se dédoubleront en une nature perfectionnée encore par la science, et dont la salubre adjonction atténuera, du moins, les préjudices qu'entraînent toujours, après tout, vos hypocrites défaillances conjugales. Bref, moi, le sorcier de Menlo Park, ainsi que l'on m'appelle ici-bas, je viens offrir aux humains de ces temps évolus et nouveaux, à mes semblables en actualisme enfin, de préférer désormais à la mensongère, médiocre et toujours changeante réalité, une positive, prestigieuse et toujours fidèle illusion. Chimère pour chimère, péché pour péché, fumée pour fumée, pourquoi donc pas? Je jure ici que dans 21 jours, Adali pourra mettre au défi l'humanité tout entière de répondre nettement à cette question-là, mon cher Lord. Car, ayant renié, disons-nous, pour la fumée d'un bien-être toujours futur, d'une prétendue justice toujours future et d'un orgueil toujours demeuré, lui, chétif et puéril, ce que l'on appela, de tout temps, avant cet automne, la douleur, l'humilité, l'amour, la foi, la prière, l'idéal et l'essentielle espérance au-delà de nos soleils d'un jour, je ne vois guère, je l'avoue, en vertu de quel diable, d'autres principes, l'homme moderne oserait, sans rire, lui présenter une objection logique ou même acceptable. Lorévald, pensif, regardait en silence cet homme singulier dont l'amer génie, tour à tour sombre ou rayonnant, cachait, sous tant d'impénétrables voiles, le véritable motif qui l'inspirait. Un coup de timbre sonna tout à coup dans l'intérieur d'un pilier. C'était un appel venu de la terre. Adali se leva, lente et comme un peu endormie. « Voici la belle vivante, Milord Celian, dit-elle. Elle entre dans Menlo Park. » Edison considérait Lorévald avec une fixité interrogative. « Au revoir, Adali, » dit gravement le jeune homme après un instant. L'électricien vint serrer la main de son inquiétante créature. « À demain, la vie, » lui dit-il. À ce mot, tous les fantastiques oiseaux des bocages souterrains et des ramées aux fleurs multicolores et lumineuses, colibris, arafeux, tourterelles, huppes bleues de l'Hudson, rossignols d'Europe, oiseaux du paradis, et jusqu'aux cygnes solitaires de la vasque où l'eau neigeuse bruissait toujours, parurent comme sortir d'une attention jusque-là silencieuse. « Au revoir, seigneur passant, au revoir » crièrent-ils avec des voix humaines, viriles et féminines. « En route pour la terre !» ajouta Edison en rendossant sa fourrure. Lorévald revêtit la sienne. « J'ai prévenu que l'on indiquât le chemin du laboratoire à notre visiteuse, » dit l'électricien. « Partons !» Une fois dans l'ascenseur, il releva les lourds crampons de fonte. La porte du magique tombeau se referma. Lorévald sentit qu'il remontait avec son génial compagnon chez les vivants.